Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la foi, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Croire en la résurrection a une action performative, agissante dans nos vies, selon le philosophe chrétien Denis Moreau. Pourtant, nous avons parfois du mal à percevoir la résurrection à l'œuvre dans notre histoire et dans le monde. Que nous dit la foi au Christ ressuscité des changements possibles dans nos vies? C'est la question que je pose à mon invitée du jour, Catherine Labbé, oblate bénédictine, mariée et mère de famille, mais aussi consultante pour des groupes internationaux et coach. Bonjour Catherine.
Bonjour Florence.
Alors pour commencer, qu'est-ce que la résurrection pour vous?
Alors, moi, je suis toujours frappée de voir que beaucoup de nos contemporains, en fait, ont du mal à appréhender aujourd'hui la résurrection, qui est quand même un des fondamentaux de notre foi chrétienne. Si on pense la résurrection comme une espèce de réanimation, en fait, post-mortem, hein, comme si on était réanimé après un arrêt cardiaque, par exemple, on bute inévitablement sur des considérations du type « comment ça se passe réellement ? Peut-on vraiment démontrer la résurrection ? Sous quelle forme Jésus est-il vraiment ressuscité ? Pourquoi Marie-Madeleine ne l'a-t-elle pas reconnu quand il a été ressuscité ?» Et en fait, force est de constater qu'on tourne en rond, en fait, sans arriver à percer ce mystère de la résurrection. Moi, il y a une définition que j'aime bien, qui est celle que le père Longeat a reprise dans un de ses livres, qui s'appelle « Sur les traces de l'au-delà », qui dit « La résurrection est un au-delà, au-delà des apparences passagères, une vie en plénitude qui franchit l'obstacle de la mort et se poursuit d'une manière accomplie en Dieu. » Et là, je trouve qu'on rentre vraiment dans une perspective nouvelle. Voilà.
Mais alors, cette définition de la résurrection, on la comprend très facilement, on la comprend en tout cas par rapport à des personnes qui seraient décédées, de nos proches. Oui. Comment on fait le lien avec nos vies aujourd'hui?
Eh bien, je crois qu'un petit peu comme Paul, en fait, sur le chemin de Damas, en fait, chacun de nous peut faire des expériences spirituelles qui bouleversent totalement leur vie. Cette expérience qui est une forme de mort à nous-mêmes, en fait, que celui qui la vit ne la comprend pas véritablement, ça le dépasse totalement. Certains parlent de renouvellement intérieur, de réveil, d'unification intérieure, de faire l'expérience en fait d'une forme de puissance de l'amour inconditionnel de Dieu ou de proximité de Dieu dans les moments où ça va vraiment mal. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a entendu aussi lors de l'évangile de l'aveugle-né. Donc c'est toujours un moment de bascule imprévisible que finalement chacun peut connaître, qui fait que sa vie prend un tournant totalement différent, où on va vers un au-delà qu'on ne connaît pas, mais qui paradoxalement devient une certitude, qui ouvre des horizons nouveaux et où on avance finalement un chemin vers lequel on avance en confiance, en fait. Voilà, une expérience de la résurrection, en fait, humaine. Alors, ça ne va pas sans combat, hein, bien sûr, parce qu'on abandonne aussi un certain nombre de sécurités. Il y a un changement de vie, donc ça nécessite aussi une forme d'accompagnement. Ça peut être assez anxiogène, en fait, parce qu'on comprend, celui qui vit cette expérience ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais c'est, en tout cas, c'est le fait de se départir de ses propres constructions pour finalement s'en remettre à plus grand que soi.
Alors, vous accompagnez dans votre vie professionnelle des conduites, ouais, du changement en entreprise, mais aussi des personnes individuelles dans des reconversions. Êtes-vous témoin à ce titre de résurrection, un peu comme vous les décriviez ici? Est-ce que vous auriez une histoire concrète à nous raconter ou un exemple de tiré de votre vie, en fait?
Alors, oui, je pense encore une fois, beaucoup de gens font des expériences spirituelles dont ils pourraient parler. Moi, je peux juste témoigner du fait que j'ai grandi en fait dans une famille qui n'était pas pratiquante du tout, et que j'ai entendu lors d'une homélie dans une abbaye bénédictine que un autre monde était possible, un monde plus juste, plus fraternel, et que cette parole a résonné si fortement en moi, à ce moment-là, que j'ai eu envie de me mettre sur ce chemin et d'avancer sur ce chemin. Voilà, d'en faire l'expérience, en fait.
Et donc ça, pour vous, c'est une expérience de résurrection?
C'est une expérience, en tout cas, de changement de vie. Oui, de changement de vie, impulsé par quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Mais il y a un appel qui résonne quand même très fortement. Voilà.
Après la résurrection, le Christ apparaît à ses proches d'une manière à la fois autre et palpable, on pourrait dire, puisqu'il dit à Thomas « touche-moi ». Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?
Cela signifie que pour ceux qui sont les témoins finalement d'un changement profond ou d'une transformation intérieure profonde, évidemment cette transformation, elle se voit et les proches peuvent être assez désarçonnés par ce qui se passe en fait, ne pas comprendre où va la personne. D'ailleurs, elle ne le sait pas elle-même le plus souvent, et c'est peut-être cette démarche-là qu'il faut accompagner en fait, parce qu'elle est un peu, surprenante pour les proches. D'ailleurs, Marie-Madeleine non plus n'a pas reconnu Jésus, en tout cas pas comme elle l'imaginait. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'abandon, là encore, hein, de ses sécurités, de l'image qu'on a de l'autre, de ses propres projections vers lesquelles il faut avancer.
Vous, par exemple, découvrant la foi, est-ce que vos proches autour de vous ont été surpris ?
Oui, bien sûr. Les proches ont été assez surpris, n'ont pas toujours compris, ne comprennent pas toujours. Les amis aussi, les amis, l'entourage proche. Oui, c'est pas si facile en fait. C'est-à-dire que la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc soit ce sont des gens qui partagent cette foi-là et qui du coup accueillent très favorablement évidemment le changement, soit c'est des gens qui sont pas du tout aujourd'hui, qui sont athées ou qui sont d'une autre religion et qui disent mais qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est toujours une surprise en fait. Même si ça se fait en douceur et de manière très progressive en fait.
À quoi nous rendre attentifs finalement pour percevoir cette présence du Christ ressuscité dans nos vies ?
Je crois que d'abord, il faut peut-être quitter un peu l'agitation ambiante que nous connaissons, d'autant plus que nous vivons finalement dans un contexte depuis la crise du Covid, hein, dans des crises finalement qui se succèdent les unes et les autres, et donc qui créent une incertitude par rapport à l'avenir, hein, qui créent des phénomènes d'inquiétude par rapport à ce qui va se passer et qu'on ne connaît pas, vers la création d'un nouveau normal que finalement dont on ne maîtrise pas véritablement les contours. Et je pense qu'il faut savoir faire silence, se poser, parce que finalement, pour entendre et pour chercher quelque chose, il faut aussi pouvoir faire un petit peu le calme autour de soi et en soi.
J'en reviens à votre activité professionnelle. Est-ce que vous auriez des exemples un petit peu nous raconter comment vous êtes, on pourrait dire, comment le Christ ressuscité habite votre accompagnement et comment êtes-vous témoin vous-même de petites résurrections, peut-être ?
On voit véritablement dans le domaine professionnel des gens faire des chemins que je vais qualifier de lumineux, même si. Donc la façon dont ça s'exprime dans l'accompagnement, c'est que moi je considère que la personne est un tout, c'est-à-dire que c'est un corps, c'est une intelligence, mais c'est aussi une âme en fait. Et les trois sont finalement deux. On ne peut pas ne traiter qu'un des volets dans l'accompagnement et pas les autres. C'est souvent fait de manière non explicite dans un cadre professionnel. Mais si la personne va sur des questions de sens et des questions existentielles profondes, ce qui est souvent le cas dans le monde du travail et de plus en plus en ce moment, où il y a une recherche du sens qui est exacerbée depuis la crise du Covid notamment, eh bien, on peut tout à fait y répondre dans la transparence, en fait. Voilà. C'est pas toujours immédiat, mais en général, ça émerge au cours des échanges.
Vous n'avez pas une petite histoire comme ça à nous raconter pour les auditeurs, pour qu'ils concrétisent un petit peu comment on peut faire une traversée. Finalement, le Christ lui-même a fait une traversée de sa passion à la résurrection, on pourrait dire. Comment est-ce qu'on fait une traversée comme ça ?
Je pense qu'il y a des belles histoires qui sont connues aujourd'hui et assez médiatisées. On pourrait parler par exemple de celle des cafés joyeux, dont vous avez entendu parler avec Yann et Ludwig Binkai, qui ont répondu à un appel d'une personne en situation de handicap et qui ont été très loin puisqu'ils ont monté un premier café joyeux, un deuxième, un troisième, et que là aussi ça ne s'est pas fait sans difficulté et sans combat au jour le jour. Donc voilà typiquement un chemin d'abord, enfin finalement de il y a un moment, il y a un déclic qui se passe, il y a un avant, il y a un après, on décide, il y a un départ, il y a un élan, et puis il y a une mise en chemin.
Il y a un abandon de sécurité.
Et puis il y a un abandon de sécurité parce que, enfin, il faudrait poser la question à Yann Bucaille, mais je pense pas que quand il a monté le premier café joyeux, tout était garanti en fait.
Oui, et c'est pour aussi une forme de... Finalement, la résurrection, c'est un peu... C'est une petite révolution, on pourrait dire. Les cafés joyeux, ça inaugure quand même un nouveau mode de société.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est la réponse. Enfin, en tout cas, c'est la réponse. C'est une écoute, je pense, des vibrations que l'on entend autour de nous, qu'on est susceptible d'entendre autour de nous. Donc, ça passe par une écoute, une intériorisation finalement de cette écoute, et puis la réponse libre à ce que l'on perçoit être un appel en fait. Qui va être très différent suivant les personnes, bien entendu, et suivant leur mode de vie et l'endroit où ils travaillent, enfin la façon dont ils travaillent et là où ils sont aujourd'hui.
Je reviens à ce terme de résurrection qui est, c'est se lever en même temps.
C'est se lever, c'est revenir à une vie en plénitude, en laissant une certaine, enfin, c'est une mort à soi-même pour accéder à une vie plus en plénitude en fait. C'est une petite mort, hein, mais...
Oui, parce qu'il n'y a pas toujours des changements extraordinaires dans nos vies.
Oui, tout à fait.
Ça peut être simplement se remettre en route après un moment de découragement, par exemple, on pourrait dire.
Oui, mais il faut que ça participe d'un redémarrage, en fait. Il y a vraiment... Il y a un avant... Et je crois qu'il y a une césure. Il y a vraiment un moment de bascule avec un avant et un après et un changement qui est quand même assez, assez profond de ce moment.
Oui. Bien, merci Catherine de nous avoir invité comme ça à mieux comprendre finalement comment la résurrection s'incarne dans nos vies aussi. Un grand merci, chers auditeurs, d'être fidèles à 1000 questions à la fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Florence Châtel. On a fait 1000 questions à la fois avec vous, Florence. C'est tous les samedis à retrouver en podcast sur les sites de vos radios favorites. Allez, restez à l'écoute. Dans moins de 5 minutes, nous parlerons des Journées Nationales de l'Architecture. C'est un événement national qui a lieu ce week-end un peu partout en France. Il y a des manifestations à ne pas manquer. On en parlera avec l'une des représentantes du côté du ministère de la Culture qui sera avec nous pour en parler dans une poignée de minutes, dans 5 minutes très exactement.